Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour à tous pour cette table ronde, première table ronde donc de cette journée, enfin une des premières tables rondes de cette journée donc de dimanche. Alors, comme vous pouvez le voir sur la présentation, comme nous sommes dans une table ronde sur le fantastique, eh bien Jean-Claude Van Troyen s'est transformé donc en femme. Hein, et voilà, donc moi je suis Natacha Vazdeir et c'est donc moi qui vais modérer cette table ronde. Voilà, pour remplacer l'ami Jean-Claude. Alors pour cette table ronde donc d'hier et d'aujourd'hui, vive les écrivains. Fantastique. Nous avons, je vais faire donc dans l'ordre d'apparition à l'image, nous avons monsieur Arnaud Huftier. Alors Arnaud Huftier, je vous le dis tout de suite, doit partir donc vers 11h30 parce qu'il a un train après. Voilà, donc on va le faire beaucoup travailler maintenant. Et puis, 10h30, sinon ça ne va pas le faire. Oui, à 10h30. Donc Arnaud Huftier est un universitaire, il est vice-président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et surtout il est ici au titre de grand spécialiste de genre, mais aussi donc du fantastique. Il a obtenu donc le Grand Prix de l'Imaginaire catégorie essai en 2011, justement pour son ouvrage sur genre. Nous avons ensuite Béatrice Potet, qui est écrivain jeunesse, mais qui dans une autre vie a été prof de lettres et d'histoire, qui écrit donc depuis quasiment que l'âge de... ou a envie d'écrire depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, des romans d'aventure historique, et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, vous avez dévié. Voilà, vous avez dévié vers l'écriture jeunesse, et puis évidemment, pour, donc vers le fantastique. Béatrice, pour cette année, vous sortez, je pense qu'on a les livres, là, voilà, le secret... Vous pouvez mettre le secret de la dame en rouge, voilà, qui a été nominé cette année au prix des Imaginales. Nous avons ensuite Raphaël Emmerich, donc qui lui aussi dans une autre vie est assistant d'édition au Diable Vauvert, donc grande maison d'édition donc de l'imaginaire. Il a écrit un premier roman qui s'appelle Pornarina, voilà, qu'on va montrer, qui est ici aussi, qui a obtenu donc le prix SAD. Voilà, cette année, un roman qui exploite justement une forme fantastique, on le verra, assez particulière. Et puis, dernier invité, donc Anthelme Hochkorn, qui est donc enseignant d'économie et gestion, mais évidemment qui lui aussi démarre très fort une carrière d'écrivain avec son journal d'un marchand de rêves. Voilà, qui a été réédité donc cette année et qui a obtenu donc le prix Imaginal 2017. Voilà. Alors on va commencer puisque notre table ronde s'appelle d'hier et d'aujourd'hui les écrivains fantastiques. Moi je voulais partir un petit peu de cette définition du fantastique histoire de se remettre un petit peu dans le bain donc de ce genre de l'imaginaire. Peut-être on pourrait pas tout à fait évidemment le genre originel, mais quand même, et la définition du fantastique, c'est le surgissement du surnaturel dans un monde réaliste et rationnel, d'après donc le grand critique et spécialiste Roger Caillois. Et donc le fantastique, eh bien, existe, je pense, sous la forme que nous connaissons depuis le 19e siècle. On pourrait citer par exemple en France Guy de Maupassant, le roman gothique anglais, avec évidemment tout un tas de titres, et puis surtout, je pense, Edgar Poe ou encore Lovecraft, voyez. Mais déjà, je dirais notamment chez Lovecraft, on commence à avoir une véritable évolution donc, du fantastique hein, au début donc, du XXe siècle. Et donc, je vais demander à nos invités un petit peu, bah, pour eux, qu'est-ce que c'est le fantastique, Arnaud Huftier?
Oui, tu commences par des questions pour vraiment louper les trains, puisque définition du fantastique, des colloques depuis des années. Donc très difficile hein, de résumer ça en quelques secondes. Donc moi, il y a une phrase, hein, enfin ou deux phrases. Roger Bozetto parle de l'impensable, mais pourtant là. Ça résume exactement toutes les stratégies, en tout cas du fantastique. Et puis la deuxième, c'était cher Hermé-Jean, cette fois-ci du côté plus de la philosophie. Le fantastique, c'est quand on ne peut plus dire comme. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce registre de comparaison et on a directement quelque chose qui est en face, qui est là. C'est pas, il est comme un loup, n'importe, c'est un loup, enfin un loup-garou, c'est directement la chose elle-même. Ensuite, juste le fantastique pour moi, c'est aussi au XVIIIe siècle, c'est aussi d'autres formes d'expression. Et puis la troisième chose, c'est que il y a toujours un sentiment de fantastique dès le départ. C'est-à-dire que ce qui est inexplicable, quand il n'y a pas de système totalisant, enfin des systèmes religieux, c'est pourquoi il y a la foudre, etc. Ça, c'est un sentiment de fantastique. D'avoir quelque chose en face de soi, même qui est de l'ordre naturel, mais qui n'a pas d'explication. Et puis le fantastique arrive avec le roman gothique, c'est de formes littéraires qui proposent des artefacts littéraires au départ, ensuite cinématographiques, pour figurer tout ce qui est inconceptualisable. Ce qu'on ne peut pas conceptualiser, on en donne des représentations. La mort, on ne peut pas la conceptualiser si on ne croit pas à un système complètement totalisant, ou en tout cas on peut y croire, mais avoir un moment des failles. Donc je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de fantastique qui donne une expression littéraire, cinématographique ou en bande dessinée, où il y a un inconceptualisable qui est là. Et on n'a pas besoin, justement, et c'est ça l'intérêt des histoires ou des films fantastiques, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre tout ce système-là. On l'éprouve. Et le simple fait d'avoir peur, ça montre la faillibilité du système. Donc moi, je ne suis pas obligatoirement pour tout ce qui est système binaire ou en tout cas Kaiwa, Castex, mais une approche élargie, justement, du fantastique. En sachant que les Français, on est les seuls à se poser la question d'un terme qui n'existe pas obligatoirement dans les autres régions. Donc, une approche beaucoup plus élargie qui peut permettre aussi de comprendre, et je terminerai avec ça, justement l'évolution. On est bien du fantastique d'hier et d'aujourd'hui. On n'a pas les mêmes expressions littéraires. Il y a d'autres modes d'écriture aussi, mais il y a toujours cette volonté, en tout cas, de mettre à jour tout ce que la société a oblitéré, tout ce que la société cache. En tout cas, on ne veut pas en parler, on ne peut pas en parler. Il y a des interdits à dire, des interdits à montrer. Et puis les expressions fantastiques ou les artefacts fantastiques montrent cela aussi. C'est ça qui me paraît intéressant.
Merci Arnaud. On y reviendra parce que du coup, en parlant, c'est vrai que j'aurais pu citer, vous voyez, par exemple, au XVIIIe siècle, Le diable amoureux de Cazotte, qui est, je pense, un marqueur assez fort de l'apparition du fantastique en France, justement. Béatrice ?
Moi, je vois dans le fantastique beaucoup de désirs humains impossibles à assouvir dans le réel. Et ça date au moins de la mythologie, quoi. Être toujours jeune, comme les dieux, comme les fées. Le voyage instantané, pouvoir se trouver à plusieurs endroits à la fois, devenir invisible. L'instantanéité aussi de son travail. Tout se fait magiquement. Et c'est ce que l'homme ne peut pas réussir en lui-même. Il le transpose dans des personnages imaginaires ou des vertus imaginaires. Des personnages qui font ce que lui-même ne peut pas faire. Dès que le personnage devient humain, il doit renoncer à tout ce qui fait ses caractéristiques fantastiques. Il y a beaucoup de contes dans lesquels une fée cherche à obtenir une âme. Et pour cela, elle doit renoncer à tout, c'est-à-dire à sa jeunesse éternelle et à sa beauté éternelle. Elle doit s'habiller comme les paysans, avec une coiffe pour masquer ses cheveux, avec des lourdes jupes, avec des sabots, et plus jamais elle ne peut faire appel à ses dons magiques, et c'est fini pour elle de danser au clair de lune avec des petites robes vaporeuses et tout ça. Et je pense que c'est dans beaucoup de cas la matérialisation imaginaire de nos désirs de vie quotidienne, quoi, tout le temps. Pourquoi vieillir? Pourquoi perdre ses dents? Pourquoi devenir moche et... Bon, voilà.
Les désirs, peut-être, et les peurs aussi.
Oui, bien sûr, mais peut-être que c'est mon côté optimiste, peut-être de voir davantage l'expression des désirs impossibles à assouvir dans notre vie réelle. Maintenant, on a assouvi, par exemple, peut-être beaucoup de désirs qui étaient impossibles chez les Grecs du temps de la mythologie, les Grecs de l'Antiquité. Beaucoup de choses se font très facilement, les voyages en particulier, mais... Oui, évidemment, les peurs, donner un visage aux peurs, c'est éternel aussi, bien évidemment. Quoi. Je ne saurais pas définir le fantastique, bien sûr.
Non, mais vous nous avez donné, évidemment, là, ça s'élargit de plus en plus. Vous voyez, on va vers... J'avais essayé de restreindre un petit peu, mais je vois qu'on va... Et vous avez parfaitement raison, on va vers la mythologie. Arnaud a commencé à élargir un petit peu tous les éléments folkloriques. Peut-être qu'on y reviendra justement à travers des créatures ou des personnages.
Oui, mais même tuer ses ennemis, celui-là, il ne me revient pas... Éclair magique, ça y est, on est débarrassé. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça dans le fantastique, je trouve.
D'accord,
voilà.
Mais merci.
Mais pour moi, il remonte bien avant le XVIIIe siècle. Enfin, dans ma propre construction de l'imaginaire.
Raphaël ?
Oui, pour moi, le fantastique, c'est plutôt un outil littéraire qui me sert en tant que lecteur et en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, quand une œuvre est étiquetée fantastique, en général, elle va me plaire. Tout ce qui me plaît, tout ce que je lis, c'est du fantastique. C'est Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. Et tous les contemporains. Et c'est un outil littéraire en tant qu'écrivain. Ça permet vraiment, ça crée un monde où le doute est possible. On peut créer quelque chose et faire voir des visions horribles, etc. dans un roman. Et on ne sait pas si c'est fantastique ou si c'est réel. Et ça permet de créer une tension toujours dans le roman. Et en général, ça permet d'exprimer la peur. Le fantastique est vachement lié à la peur. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on ne dit pas le mot fantastique et souvent ils vont classer des auteurs que nous, on classe dans le fantastique dans l'horreur, comme Lovecraft ou Poe. Ou alors ils ont la fantaisie, mais ils n'ont pas le mot fantastique comme nous. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va englober toutes les cultures liées à la peur, au gothique. Et voilà, et en tant qu'écrivain et lecteur, je vais toujours vers les œuvres fantastiques parce qu'elles offrent toujours une perspective en plus. Voilà, qui permet toujours le doute et voilà. Pour moi, le fantastique, ouais, c'est
donc un mot-clé, le doute, ça c'est bien aussi. Hein,
voilà,
tout
le
à
doute
fait.
Et la peur. Et voilà.
Ok, merci. Quentin.
Je vais faire bref pour laisser l'occasion quand même à Arnaud de pouvoir reprendre la parole avant de devoir partir. Et en plus, j'avais adoré l'écouter. Alors, comme je suis entouré de spécialistes, je vais juste me limiter à un auteur que j'ai un peu plus lu récemment, donc c'était H.P. Lovecraft, avec l'excellent guide de Christophe Thiel qui est pour aux éditions AQSF. Et effectivement, enfin, Lovecraft, vous connaissez un peu, je pense, les tentacules, le mythe de Cthulhu, etc., et j'en passe. Je vais commencer par ça, par ces termes, une intervention où il était présent. Je me suis fait corriger dans les grandes largeurs par un éminent spécialiste du mythe. Et donc, j'en viens donc au fantastique. Cette dimension un peu symbolique. En fait, c'est un peu une sorte de grande valise, un symbole, quelque chose qui va magnifier, en fait, le message profond, en fait, de l'œuvre. Et dans le cas, par exemple, de Lovecraft, ce qu'expliquait Christophe Thiel, c'est qu'en fait, ces créatures un peu étranges qui apparaissent, en fait, dans le réel, sont une sorte de vertige. Le vertige, en fait, d'une époque dans laquelle les limites temporelles sont repoussées. C'est-à-dire qu'en fait, on remet en cause un peu la lecture de la Bible avec, donc, on peut très bien comprendre que l'être humain est apparu, en fait, non pas il y a de ça 2000 ans, mais en fait, depuis bien plus longtemps. Ce qui ouvre, en fait, enfin, c'est comme si on ouvrait une trappe sous vos pieds, quelque part. C'est de se dire, qu'est-ce qui a pu avoir lieu auparavant ? Tous les passés deviennent possibles dans de tels horizons temporels. Également un vertige spatial cette fois. La Terre n'est vraiment plus au centre des choses. Le cosmos devient infini. Et dans ce grand vide, quelque part, et je terminerai par cette petite métaphore, c'est comme de nager en plein océan, après avoir vu les dents de la mer.
Oui, ça c'est effectivement une belle image. Alors c'est étonnant que vous parliez de vertige, parce que dans la toute première table ronde que je modérais, là aux Imaginales, on avait travaillé sur le plaisir de la science-fiction, le plaisir de la lecture, et en fait, nos quatre écrivains parlaient aussi du vertige de la science-fiction. Donc je pense que ça c'est un mot-clé qui est très important, c'est-à-dire qu'on aime le fantastique, on aime la littérature de l'imaginaire, parce qu'en fait, elles ouvrent un gouffre sous nos pieds, et on se jette finalement dans ce gouffre avec bonheur, avec délices, et différents gouffres, différentes images, on sait ce qui nous attend, ou on ne sait justement pas ce qui nous attend, c'est pour ça que vous avez utilisé cette image, bien sûr, des dents de la mer. Alors je vais revenir, on va essayer de peut-être de focaliser un tout petit peu plus le débat par rapport à ce que vous connaissez bien, évidemment, c'est-à-dire par rapport à vos créations. Et Arnaud, comme vous êtes un spécialiste de genre, je voulais savoir, justement, c'est quoi le fantastique de genre ? Ah, il voulait boire avant, peut-être.
Fantastique de genre, déjà, j'ai toujours pour habitude de dire que genre, pour moi, ça reste le plus grand écrivain du XXe siècle. Hein. Même voilà. S'il y a des personnes, enfin des écrivains que j'apprécie aussi beaucoup, même comme Lovecraft, mais c'est vraiment quelqu'un qui a laissé une œuvre absolument considérable. Quoi. Je pense qu'on ne peut pas, à mon sens, parler même de littérature fantastique en tant que lecteur, hein, cette fois-ci, sans avoir lu Malpertuis. Puisqu'on retrouve justement tout ce qui est le retour de la mythologie. Hein. American Gods, Gaiman, c'est quand même une réécriture quelque part de Malpertuis, de genre. Donc c'est lui aussi qui, contrairement, et encore une fois, j'aime beaucoup Lovecraft, hein, ça a marqué, mais qui est quand même une ligne assez directe. C'est-à-dire on voit comment travaille Lovecraft, ce qu'il vise. Genre, lui, a réussi justement à synthétiser un peu tout ce qui pouvait être le fantastique qui relevait de l'épouvante, qui relevait de l'angoisse, qui relevait de l'indétermination. Et à partir du moment où il a essayé de tout comprendre, de tout assimiler, avec une production qui s'étend dans le temps des années 1920 aux années 1960, donc c'est-à-dire qu'il voit l'évolution, il intègre aussi ce qui se passe avec tout ce qui va être Blanchot, quand Blanchot fait Amin Abad, etc., enfin, tout ce qui est le fantastique de l'absurde, Donc, c'est-à-dire d'arc-bouter l'ensemble des expressions pour avoir quelque chose qui reste avec cette sidération ou cette fascination de quelque chose qui est en trop. Et même, je pensais en même temps, y a aussi, on retrouve, ça définit l'univers de genre aussi, ça définit une certaine forme d'expression fantastique. Et puis alors, je pensais à ça en vous écoutant aussi. Moi, il y a une phrase qui m'a frappé aussi. Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est une phrase qui est prononcée par Jacques Brel. Puisqu'il y a eu des adaptations de courts-métrages de Jean Rey dans les années 58-59. Et puis, c'était présenté. Il y avait Maurice Béjart qui présentait aussi. Et donc, Jacques Brel en présente notamment un, Le gardien du cimetière, qui est un récit de vampire. L'adaptation, le court-métrage, n'est pas obligatoirement extraordinaire. Mais on voit Jacques Brel sur les toits de Paris et qui dit, voilà, avec... la faconde de Jacques Brel, on dit oh, Jean Rey, c'est vraiment un écrivain extraordinaire. Et il dit, voilà, le fantastique pour moi, comme quoi il ne faut pas obligatoirement chercher dans les spécialistes pour avoir des expressions qui marquent. Et il dit, c'est un espace surnuméraire. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que tout est là aussi. Un espace qui est en trop. Et cet espace, c'est l'espace de l'autre, justement, de ce qu'on ne connaît pas, qui permet de retrouver aussi la mythologie, puisque la mythologie, quelque part, va être aussi l'espace de l'autre. Qui permet d'apprivoiser ce que nous sommes aussi. Après, c'est une expression, encore une fois, la mythologie est différente du fantastique, comme c'est une expression littéraire, avec des codes aussi, et aussi un contrat de lecture. Ce n'est pas le même contrat de lecture que la féerie, que la mythologie, même si ça reste avec le même principe. Et donc, Jean Rey, c'est toujours ça. Il y a un espace surnuméraire, et il joue avec cet espace. Donc, simplement, d'avoir des dents mal pertuis, des petits bourgeois, et de découvrir que ces petits bourgeois, finalement, sont... les dieux de l'Olympe, mais enfermés dans une société contemporaine. Donc, c'est-à-dire que ce qui frappe aussi dans Malpertuis, c'est de découvrir que on retrouve les restes des mythologies, on les remet dans le XXe siècle, ils deviennent des petits bourgeois. C'est-à-dire qu'ils perdent tout essence, ou en tout cas tout ce qui est l'ailleurs, justement, tout ce qui pouvait représenter des façons de penser le monde, une certaine forme d'essence, non, c'est pris dans une certaine forme de répétition. Donc il y a une angoisse, il y a un vertige aussi. Le vertige, c'est de découvrir que finalement, nos vies, c'est quoi aussi? C'est essayer de répéter les choses, c'est essayer de refuser ce qui peut paraître difficile à appréhender. Des histoires, c'est pour ça que même les Américains parlent d'escape literature, littérature d'évasion. Ça revient à Tolkien, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une littérature du statu quo? Est-ce que c'est simplement refuser le monde d'avoir une littérature d'évasion? Ou est-ce que c'est quelque chose de progressiste en disant c'est par des littératures de l'imaginaire, de fantastique, que je vais redéfinir aussi ce qui ne fonctionne pas dans le monde? Et Jean Rey, c'est toujours ça. C'est vraiment toujours cette limite de représenter ce qui fait que la société, même au XXe siècle, devient de plus en plus compartimentée, que le règne du XXe siècle, c'est plus que le XIXe siècle, c'est la petite bourgeoisie. Et puis en même temps les conflits énormes, parce qu'il les vit aussi, il vit les deux guerres, il écrit par rapport aux deux guerres, donc c'est pas non plus très simple quand on a ces expressions de n'écrire que du fantastique et de vivre les deux guerres avec ça. Il vit les deux guerres, il reste en Belgique sous l'occupation, et Malpertuis est écrit, il faut jamais l'oublier, pendant l'occupation, il se passe quoi en Belgique, justement, la petite bourgeoisie qui ne veut pas voir aussi ce qui se passe à côté et qui reste là, qui ne fait pas obligatoirement de la collaboration active, mais de la collaboration passive, on ne veut pas voir. Donc il y a un manque d'essence. Et le fantastique, justement, c'est ce qui permet, et c'est pour ça que ça arrive au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, quand il y a les révolutions industrielles, où tous les systèmes s'écroulent. Tous les systèmes de pensée totalisants, il y a la perte de religion, il y a toute une transformation, et puis il faut une expression pour repenser ça. Et actuellement, quand on voit les changements aussi, ce qui se passe à l'ère du numérique, à l'ère de la globalisation, à l'ère de... on perd un peu tout ce qui peut être les racines même folkloriques, vous voyez, tout ce qui est là, ça va tellement vite qu'on a du mal à l'appréhender. Il faut peut-être comprendre pourquoi maintenant il y a aussi, on va dire, une littérature fantastique qui est remplacée par des mondes de la fantasy.
Alors c'est intéressant là ce que vous dites, parce que en fait nous avons donné le prix cette année du roman étranger à Lisa Goldstein, et Lisa Goldstein, Le sombre cité souterraine, c'est très exactement ce sujet-là. C'est-à-dire que, alors, bon, elle est étiquetée sous la fantaisie urbaine. Hein. Je ne sais pas si vous lirez ou pas ce roman, mais c'est un excellent roman. C'est vraiment un plaisir de lecture très important. Et c'est également une réécriture, en fait, de la mythologie. Alors là, c'est la mythologie égyptienne qui intègre complètement, enfin, qui a intégré le monde du 19e siècle et le monde du 20e siècle et qui est aujourd'hui, donc, caché dans des métros, partout dans les rames de métro dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est très exactement, ça m'a frappé en fait, ce rapport entre Malpertuis et effectivement, c'est pour ça peut-être que on a bien aimé ce roman aussi.
C'est tout ce qui relève d'une quotidienneté aliénante. Oui.
Très bien.
Encore une fois, je dirais simplement, il y a un texte que je trouve absolument extraordinaire, qui ne fait pas appel à des effets sanglants chez Jean Rey, mais c'est une nouvelle très très courte qui est « Trois petites vieilles sur un banc », où vous avez un petit bourgeois qui ne pense simplement qu'à bien manger, aucune vie sexuelle, etc. Enfin, palliatif, tout ce qu'on veut, mais bien manger, son petit cercle d'amis, avoir de l'argent, une réussite. Et puis, de la fenêtre de son salon, il voit tous les jours trois petites vieilles qui s'installent sur un banc. Et puis, bon, à se poser simplement la question, elles font quoi tous les jours, pendant plusieurs jours. Donc vous voyez, rien de sanglant. Puis à un moment, il les voit partir. Et là, il se dit, il faut que je les suive. Et en fait,
c'est des parcs.
Elle le mange.
D'accord, à bout.
C'est tout. Donc, ça veut dire que c'est une nouvelle qui est très très forte, parce que très courte. Et en même temps, on voit que c'est pas obligatoirement quelque chose d'horrifique qui est présenté là. Et ce qui est important, c'est qu'elle le mange, mais de la même manière que lui rêvait et vivait sa quotidienneté. Donc, c'est-à-dire qu'on a véritablement un système qui est un vertige, c'est que l'envers, même l'espace surnuméraire, c'est la reduplication de l'endroit. C'est-à-dire, ce qu'il vivait le rendait déjà mort. C'est-à-dire, plus de perspective d'aller au-delà. Simplement une quotidienneté aliénante. Et c'est l'événement fantastique, ou l'événement qui est présenté ici, entérine cela. Et l'aspect d'angoisse ou de vertige, c'est ça, quoi. Okay.
Donc, Arnaud, Oui. Pas de presser, mais comme...
C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite. Voilà, donc je suis désolé comme ça, donc, je laisse la parole.
Non, mais je voulais vraiment qu'on évoque Jean Rey, c'était important. Tu veux y aller maintenant ou...
Je vais peut-être y aller maintenant, justement, comme quand même, sinon
voilà.
L'éditeur...
Et après on va repartir.
L'éditeur va me dire aussi, après, tu n'as pas fait ton travail, Jean Rey, c'est réédité actuellement chez Alma.
Voilà, si vous voulez dire Jean Rey.
Donc une très très belle édition avec des couvertures magnifiques de Philippe Forster, que je trouve magnifique. Oui, mais les nouveaux sont beaucoup mieux. Et les nouveaux sont beaucoup mieux avec des textes aussi. Oui, mais il faut quand même. Donc les textes, puisque Jean Rey a été caviardé par Marabout, notamment. Donc là, on a restitué les textes originaux de Jean Rey dans leur jus. Et donc vous avez 10 volumes, je crois que les deux derniers volumes vont être publiés au mois de novembre. Alma éditeur, 18 € par volume, ça vaut le coup, c'est absolument magnifique. Voilà. Comme ça, il faudra dire à l'éditeur que j'ai fait mon travail.
Mais pas de problème, pas de problème Arnaud. Bien. Allez, on va laisser. Non, mais c'est très bien, on va laisser partir Arnaud Huftier pour qu'il puisse prendre son train. Et nous lui disons à très très bientôt. Voilà. Alors justement, on va repartir avec nos écrivains, puisque Arnaud Huftier parlait d'un écrivain sur lequel il travaillait, où il a aidé à la réédition, vous avez bien compris. Et donc justement, dans vos œuvres, Béatrice, qu'est-ce que vous pratiquez comme type de fantastique et pourquoi avoir choisi telle ou telle forme ? D'accord. Il marche le micro là ? Non, attendez, on va changer de micro là, parce que... Allez-y.
Voilà, il en marche. Mon point de départ, c'est plutôt l'histoire. En fait, moi, ce que j'aime, c'est l'histoire. Je suis pénétrée de romans historiques depuis que je sais lire, je vais dire. Et petit à petit, le fantastique, est entré dans ma vie. C'est vraiment la tarte à la crème de dire ça. Mon père lisait Planète. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce magazine.
Oui, complètement.
Alors, j'avais 12, 13, 14 ans.
Planète, c'était revue dirigée par Louis Poel et Berger. Jacques Vergier. Hein, voilà.
Et c'était la revue du réalisme fantastique. Il y avait plein d'événements bizarroïdes là-dedans. Il expliquait ce que pouvait être, un tel qui était voyant, qui aidait la police à retrouver des coupables, ou des faits historiques, des nouvelles bizarres, etc. Et alors j'étais enfant, on était à table le soir, et mon père nous disait, vous savez ce que j'ai lu dans Planète ? Il y a tel type qui a fait tel truc, il y a des bizarreries qui arrivent, bon. Et moi, je passais mes samedis et mes dimanches dans la bibliothèque des parents, pendant qu'ils n'étaient pas là, à farfouiller là-dedans, et j'ai hérité de mon père toute la collection des Planètes. Et je pense que ça a orienté mon esprit vers les étrangetés de l'histoire, déjà. J'écris du roman historique pour la jeunesse, qui est toujours teinté de croyances, de superstitions, d'étrangetés et de bizarreries, comme il y en a dans, je pense, toutes les civilisations, sauf peut-être la nôtre, depuis les époques rationalistes, depuis la fin du 19e siècle, le 19e siècle tout rond. Alors oui, il y a des résurgences avec les romans ou les nouvelles dont on a parlé, même chez Victor Hugo, chez Alexandre Dumas, tout ça, Edgar Poe, bien sûr. Mais plus le temps passait, plus on arrivait, mettons dans la période après-guerre, vers 45, en disant... Soyons sérieux, ne croyons plus à tous ces trucs-là. Ça y est, c'est les contes de Grimm, c'est de la littérature pour enfants. Ce qui n'est pas vrai au départ, c'est de la littérature pour tout le monde. On a relégué le fantastique du côté de la science-fiction. Là, effectivement, on peut être invisible, on peut voyager dans les étoiles, etc. Voyager instantanément, voyager dans le temps. Et il faut vraiment venir aux imaginales pour qu'on ait cette sensibilité à l'étrange, au bizarre, qui nous suit depuis, à mon avis, 2000 ans. Quoi. Bien, moi, j'écris des romans qui sont réalistes le plus possible, proches de l'histoire autant qu'il m'est possible. J'essaye de ne pas faire d'erreurs historiques. Mes romans se passent au Moyen-Âge, à la Renaissance, au 19e siècle, etc. À cette transition bizarre entre le Moyen-Âge et la Renaissance, dans les années entre 1450 et 1500, mais il y a toujours une étrangeté, une bizarrerie qui intervient et c'est l'émergence d'un fil d'or de fantastique dans nos vies quotidiennes ou dans la vie quotidienne de nos héros. Dans le dernier, là, Le secret de la dame en rouge, cette jeune dame, c'est une ado, elle a 17 ans et elle se trouve un don de voyance, elle ne sait pas d'où ça lui vient et ce ne sera pas expliqué du reste. Mais voir l'avenir a toujours été un désir chez beaucoup, on se demande pourquoi. Je me dis, si quand j'avais 20 ans, on avait dit, voilà l'avenir qui t'attend, oui, d'accord, tu seras auteur et publié, mais t'auras tel ennui, tel truc, tel machin. Oh, j'aurais dit, je veux pas savoir mon avenir, c'est sûr. Mais enfin bon, toujours est-il qu'elle est voyante. Et c'est ça, le côté fantastique, dans ce roman-là, il est là. Dans d'autres, ce sera des grimoires, dans d'autres, ce sera l'apparition d'un fantôme ou d'un fantôme bienveillant. J'ai tendance à pas voir l'horreur et la terreur dans le fantastique. Plutôt... Les anciennes traditions, l'expression des désirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le côté conte merveilleux. Même si dans les contes merveilleux, il y a beaucoup de sorcières et que le destin des sorcières a été horrible, vraiment, c'est épouvantable, quoi. J'aurais tendance à le voir par le bout optimiste de la lorgnette, disons.
Alors, c'est très intéressant, là, ce que vous dites, parce que dans nos trois auteurs, en fait, vous avez une représentation. Donc, Béatrice, on a bien compris que vous étiez plutôt dans un fantastique optimiste.
Oui,
voilà, assez joyeux, finalement.
Pas gnangnan, enfin, j'espère.
Oui, non, mais bien sûr.
C'est pas fleur bleue non plus.
Oui.
Ce qui arrive aux héros, bah, c'est les difficultés classiques auxquelles peuvent s'affronter des jeunes, mais même des êtres humains en général. Sauf que la solution va passer par des voies qui ne sont pas forcément rationnelles, quoi.
D'accord. Et justement, nos deux autres invités, alors, donc Raphaël avec Pornarina. Alors là, on est dans quelque chose de très, très différent, puisque Pornarina, c'est un personnage qui... Moi, je suis entrée dans ce roman. Alors, je cherchais là depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, Raphaël, si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a un peu de grand guignol dans votre roman. Est-ce que ça correspond à ça? Il y a un petit peu de gore aussi. C'est donc un personnage de prostituée tout à fait atypique qui a une tête de cheval. Et moi, je voudrais qu'on rentre un petit peu là-dedans, c'est-à-dire... Comment vous nous expliquez cette tête de cheval? Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie tête de cheval ou c'est une déformation? Comment vous avez vraiment envisagé ce personnage fantastique et votre fantastique à vous?
Bah oui, justement, le fantastique m'a permis de créer cette prostituée à tête de cheval. Et dans le roman, on ne sait pas si vraiment elle a une tête de cheval ou pas. On ne sait pas si c'est un fantasme des hommes qui vont la traquer. Parce qu'en fait, Pornarina va semer des morts un peu dans toute l'Europe, va émasculer des hommes. Et donc, des hommes vont la traquer. Et chaque homme qui va la traquer va avoir une vision très différente de Pornarina. Pour certains, ça va être une grande expiatrice qui libère les hommes du vice. Pour d'autres, ça va être une tueuse en série totalement banale qui n'a même pas de tête de cheval. Et en fin de compte, le fantastique me permet de... Voilà, je pense, enfin, globalement, je pense que les lecteurs pensent que c'est fantastique, enfin, les retours que j'ai eus. Mais après, pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, elle pourrait ne pas avoir de tête de cheval. Et là, c'est surtout le fantastique me permet de faire une métaphore à l'échelle du roman. Parce que ce que j'ai voulu faire aussi, c'est représenter un aspect de la sexualité humaine, plutôt très pessimiste. Et le fantastique me permet ça, c'est-à-dire de parler... c'est un roman qui parle finalement de sexualité humaine. Et ça me permet d'aborder un sujet qu'on n'aborde pas facilement... C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins névrosés, on a tous plus ou moins des problèmes sur tous ces plans-là. Et le fantastique me permet ça, d'en parler finalement assez simplement sur une table ronde en disant qu'on est tous névrosés et voilà. Et ça me permet de parler de ça et d'ouvrir des débats là-dessus. Et moi, le fantastique, pour moi, ça explore plutôt le côté noir de nos vies, ou noir ou pas noir, mais enfin, le côté, voilà, les difficultés qu'on a tous avec la sexualité, avec la vie commune, etc. Et voilà, c'est vraiment ce qui me permet de faire ça.
Avec peut-être aussi, moi j'ai, enfin c'est un thème que j'ai perçu hein, dans votre roman, mais avec la laideur aussi. Peut-être non, la monstruosité, la laideur, parce que ce personnage, en fait, on ne sait pas si elle a une tête de cheval ou si c'est voilà, une image complètement fantasmatique, ou si c'est une femme qui est peut-être très laide et qui, pour se venger de sa laideur, tue des hommes, etc. Est-ce qu'il y a ce rapport-là aussi ?
C'est pas tant la laideur que le monstrueux, et je pense que le roman, il est un peu, on va dire, écrit du côté famille Adam, c'est-à-dire que la laideur est plutôt presque positive, en fait. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un roman qui traite aussi beaucoup de monstruosité, il y a les sorcières moises, des choses comme ça à l'intérieur, mais c'est pas du tout vu du côté de la laideur qui serait vu de façon négative, et c'est même presque positif, parce que Pornarina pourrait presque ressortir comme un personnage positif, entre guillemets, même si elle tue des hommes, etc. Mais c'est un personnage qui a une très grande force, qui est monstrueuse, mais qui garde un côté assez positif, en tout cas pour moi. Voilà. Et si je peux juste dire un petit mot sur mes influences pour parler un peu du fantastique.
Bien sûr, bien sûr.
Ça permettra de faire un petit panorama. Les deux grandes influences qu'on a tous citées, c'est Poe et Lovecraft. Et je voudrais juste dire pourquoi ils sont très importants pour moi dans le fantastique. Parce qu'ils n'ont pas fait que du fantastique. C'est-à-dire que Edgar Allan Poe, c'est un auteur fantastique, mais qui a amené l'écriture journalistique dans la littérature, notamment avec Marie Roget. Et tout ce qu'il a fait, il a créé le roman policier, il a créé énormément de choses via le fantastique. Mais il y a vraiment derrière ça une ambition esthétique et littéraire, donc ça c'est une très grande source d'influence. Et Lovecraft c'est pareil, lui il n'a pas amené le journalistique dans la littérature, mais il a vraiment amené la science dans la littérature. Et ça ressort aussi narrativement, toutes ces nouvelles sont comme Edgar Allan Poe, c'est des systèmes narratifs très différents. Mais le fantastique enrichit leur système narratif, et ils ont amené beaucoup à la littérature, et c'est pour ça que ce sont des sources d'influence. Voilà, c'est pas tant pour leur côté horrifique, etc., même si j'aime beaucoup, mais c'est vraiment, ils ont apporté quelque chose à la littérature, ils ont fait évoluer le système narratif et la façon dont on pense les histoires. Et après, l'autre grande source d'inspiration, c'est les auteurs fantastiques contemporains, qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais je lis beaucoup en anglais, et en Angleterre, c'est vraiment très très vif le fantastique. Enfin, ils connaissent pas le mot fantastique, mais la fantasy, l'horreur. C'est-à-dire qu'en France, on a quelques auteurs fantastiques, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas identifiés par des grandes maisons. Il n'y a pas de grandes maisons qui portent le fantastique en France. Il y en a, mais il n'y a pas de... Aux États-Unis, vous avez des maisons qui portent la weird fiction ou la bizarro fiction, et qui ont des dizaines, des vingtaines d'auteurs qui participent à ce genre. Et je ne sais pas si vous ne connaissez peut-être pas la weird fiction ou la bizarro fiction, mais ce sont des genres très développés aux États-Unis où des auteurs écrivent à l'intérieur. La bizarro fiction, par exemple, qui n'a pas été vraiment apportée en France encore, pas encore traduite, avec des auteurs comme Carlton Mellick III, qui sera peut-être traduit un jour. Et ça, c'est un auteur qui m'a beaucoup passionné, qui fait du grand guignol, justement, un petit peu, qui le remet au goût du jour. Et c'est un fantastique très... ce qu'on appelle ça... j'ai perdu le
un peu spectaculaire.
J'ai perdu le mot, enfin spectaculaire, voilà. Mais il a fait un fantastique qui baigne dans la sexualité, dans le gore, dans le... Voilà. Et c'est ce qui manquait un peu au 19e siècle, où la sexualité était toujours vue de façon sous-jacente, avec Dracula par exemple. Et là, nous avons des auteurs aujourd'hui qui font du fantastique et qui prennent à bras le thème de la sexualité. Et c'est des auteurs qui me passionnent énormément, parce que voilà, c'est un peu dans ce genre que je m'inscris, mais qui n'est vraiment pas connu en France, la bizarro fiction, qui va faire des grands romans sur des thèmes sexuels très, très premier degré, et assez trash aussi, et toujours un élément fantastique. qui va baigner dedans. Donc ça, c'est mes grandes influences américaines qui seront peut-être traduites un jour. Il y a aussi Michael Cisco, qui est un grand auteur américain de fiction, qui va être traduit au Diable Vauvert en août 2018. Et ça, je vous encourage à le lire aussi. C'est un fantastique très contemporain qui joue beaucoup donc, sur la weird fiction. C'est un peu la suite de Lovecraft. Mais là, on est vraiment dans la confusion et c'est un fantastique où rien n'est sûr, mais ça joue aussi au niveau de la narration. Ce sont des écrivains qui ont toujours une narration très, très confuse. Voilà. Bon, c'est pas très précis, c'est un peu dur à expliquer. Mais,
ça nous donne des pistes de lecture aussi. Voilà. Hein, et puis, on envisage l'avenir. Hein, justement, notre table ronde est très précisément sur ce sujet-là. Ça m'a fait penser, quand vous avez évoqué Lovecraft, vous savez qu'il y a une des dernières séries sur Netflix qui s'appelle Stranger Things. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, regardez-la, parce que c'est une série qui est extrêmement bien construite, alors qui est une évocation assez nostalgique des années 80, puisque ça se passe dans les années 80. Mais surtout, on a une créature qui, pour moi, est une créature tout à fait issue du monde de Lovecraft, une espèce de créature immense, tentaculaire, très noire, alors qui pourrait effectivement être un extraterrestre, mais finalement, rien ne dit que c'est un extraterrestre. Et je pense qu'on est complètement dans cette espèce d'ambiguïté fantastique, voilà, qui a totalement exploité Lovecraft. Vous voyez, donc même dans des formes ultra contemporaines et dans des formes sérielles, on va retrouver justement ce fantastique contemporain. Alors, Anselme, on va revenir à votre œuvre, Journal d'un marchand de rêves. Alors moi, c'était un roman qui m'a totalement fasciné. D'abord parce que je trouve qu'à l'intérieur, il y a aussi une forme contemporaine de fantastique, mais un peu hybride, parce qu'on va trouver des automates, on va trouver qui nous font penser peut-être à des robots, il y a un petit peu de steampunk, on est dans un monde onirique, on est dans un monde parallèle. Vous voyez, donc ce que disait Arnaud Huftier tout à l'heure, c'est-à-dire que le fantastique, c'était un monde surnuméraire, moi je trouve que ça s'applique parfaitement bien à votre roman. Alors dites-nous un peu pour vous, et notamment dans cette œuvre, qu'est-ce que c'est votre fantastique ?
Alors c'est plus une sorte de fantastique un peu plus bienveillant, d'où mes regards un petit peu inquiets quand je t'écoutais parler. Justement, je me disais, mon Dieu, y a-t-il des enfants dans la salle ? Tout va bien, on a évité le drame. Et en même temps, c'est amusant parce que j'ai commencé avec des premières amours extrêmement sombres. Par exemple, Clive Barker, qu'on n'a pas encore cité, effectivement, on aurait pu. Et je ne vais pas étaler ma vie, mais en gros, il m'est arrivé 2-3 petites galères, comme à tout à chacun, à vrai dire. Et tout cela remet les choses en perspective. Et ça m'a amené en fait à reconsidérer 2-3 choses par rapport à notre époque. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le fantastique, c'est qu'en fait, on baigne dans le fantastique tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Toutes ces choses en fait qui sont faites comme des automatismes, qu'on estime normales, par exemple, alors je ne vais pas vous faire un grand couplet social, et par exemple qu'une personne, j'habite à Lille, puisse être dans la rue, que les gens passent devant sans la voir, qu'elle dorme dehors, ça peut sembler normal. Vous aviez un humoriste américain qui décrivent en fait une demoiselle qui arrivait à New York, qui voyait ça, venue de la campagne, et qui se précipitait sur le SDF en disant « Mais mon Dieu, le pauvre homme, pourquoi ne fait-on rien ?» Les New-Yorkais qui passent à côté en disant « Mais c'est qui cette folle ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Dès qu'on change un peu les perspectives, dès qu'on change ne serait-ce qu'un élément du quotidien perçu comme acceptable, comme normé, aussitôt on met tout en cause. Et donc pour revenir par rapport à cette première remarque, le rêve en fait, alors c'est très pratchettien à vrai dire, le monde des rêves comme disait Pratchett est monde et miroir des mondes. Donc en fait au niveau des tomes que j'ai prévus pour cette série, on va dire Shrek Tom sera autonome, mais à chaque fois je prends un élément du quotidien qui me semble communément accepté de façon assez dangereuse et j'en pousse les travers dans le monde des rêves. Par exemple, donc pour le premier tome, journal, on est vraiment sur un peu Internet, quelque part, le côté un peu normé. En gros, je prenais un plaisir, certain, à mettre en scène un monde des rêves qui est aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre. Un monde des rêves, je veux dire, qui est géré par une administration qui numérote les rêves, les archives, décide si le rêve est autorisé ou interdit. Et s'il est interdit, ma foi, malheur à lui. C'est quand même assez étonnant, je veux dire. Et bien sûr, c'est un peu ce qu'on pourrait voir pour certains par rapport à Internet. Avec cette loi qui se profile par exemple par rapport aux fake news, vous voyez ce que je veux dire ? Si on commence à censurer même un espace entre guillemets de liberté de libre expression, c'est éventuellement problématique. Et dernier point pour conclure là-dessus, pour le prochain tome par exemple, ce qui m'intéresse également, parler du bizarre, et je me permets du coup de rebondir dessus parce que ce thème il me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup les peintures par exemple de Francis Bacon. Et cette norme en fait de l'esthétisme, de la beauté, un peu ce diktat entre guillemets de ce que devrait être une vie réussie. Je ne ferai aucune citation mettant en scène une Rolex, d'accord ? Et bon, j'en dirai pas plus. Évidemment, on ne peut pas dire ce qu'est une vie réussie. Parce qu'en fait, le thème du prochain ouvrage, par exemple, c'est de montrer donc qu'on a des modèles de vie réussie, que des personnes se complaisent dans ces modèles et arriver à des âges assez proches du mien, je me pose quand même de grandes questions. On se dit en fait, le modèle est fait, ça y est, j'ai les enfants, la maison, la voiture, etc. Et pourtant, je ne suis pas heureux ou heureuse. Parce qu'à aucun moment, je ne me suis demandé, est-ce que ce modèle est vraiment fait pour moi ? Est-ce que c'est moi ? Et ce qui m'a beaucoup intéressé en dernière remarque, c'est un peu une remise au goût du jour de la méditation. Ce n'est pas vraiment du rêve, mais c'est quand même le fait de sortir un peu hors de soi, de se détacher des choses pour mieux y revenir ensuite avec un regard qui soit apaisé. Donc de faire un peu cette promotion de méditation auprès, par exemple, des enfants, juste de prendre un peu de temps pour réfléchir à sa vie, se demander qui on est et si on est vraiment heureux ou heureuse, c'est à mon avis un premier pas dans la bonne direction, plutôt que de courir vers un modèle qu'on vous ferait miroiter.
D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez annoncé qu'il y aurait effectivement des suites. Donc ça, c'est très plaisant parce que voilà, on va suivre vos aventures d'écrivain avec vraiment un immense plaisir.
Merci, c'est très gentil.
Voilà. Alors, autre question que je voulais vous poser justement parce que bon, le fantastique, et puis on va recoller un petit peu au thème du festival cette année, ce sont aussi des créatures. Et moi, quand je pense fantastique, vous voyez, enfin, les créatures fantastiques qui me viennent à l'esprit, c'est un peu des créatures, tout ce qui vient du monde démoniaque, on va dire, les démons, les vampires, vous voyez. Alors, peut-être je m'éloigne un peu de la mythologie,
ou du
folklore. Hein.
Du folklore.
Mais je pense qu'il y a vraiment une lignée dans les créatures, entre les créatures qui nous viennent des mondes mythologiques, hein, toutes les mythologies. Si vous regardez, par exemple, je ne sais pas, les sirènes, qu'on retrouve d'ailleurs dans des formes beaucoup plus contemporaines dans le cinéma, comme par exemple dans Pirates des Caraïbes. On a les sirènes, on a par exemple donc les cyclopes, etc. Ensuite, on va avoir peut-être toutes les créatures et les monstres qui nous viennent des contes et du folklore. Voilà, alors qui sont essentiellement des bêtes, mais ça peut être aussi des fées, ça peut être aussi des elfes, ça peut être aussi des trolls, etc. Et puis après, on va avoir, je pense, une autre famille à partir du XVIIIe siècle, hein, où le fantastique se transforme un petit peu. On va avoir des créatures démoniaques, toutes les variations du diable, y compris par exemple les vampires, les loups-garous. Voilà, ça, ce sont vraiment des créatures, pour moi, qui viennent du monde fantastique. Alors, pour vous, est-ce que vous avez un goût particulier pour certaines créatures et comment vous les utilisez dans vos œuvres ou comment est-ce que vous souhaiteriez les utiliser ?
Alors ça, je dois dire qu'en ce qui me concerne, je n'introduis pas de personnages de ce genre, ni démoniaques, ni angéliques ou féeriques, puisque c'est un peu du même tabac. Joker pour moi.
Bon, d'accord. Donc, Joker
non,
pour Béatrice.
Non, non. Enfin,
mais est-ce qu'il y a pour vous quand même, est-ce qu'en tant que lectrice, est-ce qu'il y a justement des créatures qui vous intéressent ?
J'ai fait pour Casterman une encyclopédie du fantastique et de l'étrange. Et évidemment, vous commencez à tirer un fil, puis vous en trouvez plein. Puis vous voyez les filiations, les hérédités. Les nymphes ont donné... Je ne dirais pas qu'elles ont donné vie aux fées d'Europe occidentale, mais on n'est pas très loin non plus. Et ainsi de suite. Les sirènes sont d'abord... les sirènes grecques ne ressemblent pas du tout aux sirènes nordiques à queue de poisson. Pourtant, dans l'imaginaire ordinaire, je dirais, on ne voit que des femmes à queue de poisson pour être des sirènes.
Oui, alors que dans l'Odyssée,
c'est des femmes oiseaux.
Des chimères avec une tête de femme et un corps d'oiseau.
Et féroces en plus. L'Église en a fait des L'Église a fait des sirènes nordiques. l'image même de la femme, c'est-à-dire double, séduisante, séductrice, vaine. Et puis démoniaque, quoi. Quand on veut symboliser le mal dans les cathédrales, sur les chapiteaux, on met des sirènes, une sirène à double queue. Elle tient une queue à chaque main, comme si elle ouvrait les cuisses et comme si elle se présentait à tous, comme la prostituée aussi. Bien. J'aime bien féerique, ce qu'on appelle le petit peuple, l'autre monde, etc. Je ne suis pas très sensible à Lovecraft ou à... des auteurs comme ça, c'est une féerie qui ne me parle pas, disons. Je suis plus dans les croyances paysannes des temps anciens et puis jusqu'à assez récemment. Je dirais jusqu'aux années 1900. Les gens étaient pénétrés de ça. C'était dans leur vie quotidienne qu'ils croisaient des fées, peut-être pas. Quand j'ai fait ce truc pour Casterman, donc j'en étais à faire le chapitre des fées. Et malgré moi, quand je voyais dans mon jardin des ronds de champignons, je disais, ah, les fées sont venues danser ici. Quand je voyais au printemps les fleurs qui s'ouvrent, je disais, ah, les fées sont en train d'ouvrir les fleurs. Et c'est, comment dire, j'étais pénétrée de mon sujet et je le voyais dans ma réalité. Je ne crois pas aux fées, bien sûr. Mais quand vous baignez dedans toute votre vie, ben, ça vous semble naturel. Toutes ces choses-là vous semblent naturelles. Et je pense que vraiment, le coup d'arrêt a été mis entre 1900 et 1950. Non, on ne croit plus à ça. C'est enfantin. Il ne faut plus y penser. C'est des contes pour enfants. Alors qu'il y a une richesse de l'imaginaire qui est formidable, je trouve. Vraiment.
C'est aussi voilà. Parce que la science a rationalisé notre monde.
Oui, alors.
Mais je pense que vous avez. On a absolument la liberté de croire que les fleurs s'ouvrent parce qu'il y a une programmation ou que les fleurs s'ouvrent parce que les fées viennent les ouvrir.
Mais ce que je vois, moi, comme transition, c'est qu'à partir du moment où on s'est dit ne croyons plus à l'imaginaire fantastique, on est sérieux, on est rationnel et on crée la science-fiction. Vous appuyez sur un bouton, vous vous retrouvez sur les étoiles, vous appuyez sur un autre bouton et vous allez traverser le temps et tout ça. Et toute la littérature de science-fiction des années 50, à peu près, c'est vraiment un monde fantastique aussi, la science-fiction des années 50, où tout est possible, mais avec un déguisement, si on peut dire, un accoutrement de métal, d'électricité, de boutons, de découvertes de savants plus ou moins fous. Mais c'est de la même veine du désir inassouvi pour moi. Vraiment, le fantastique, c'est ça.
Mais merci, Béatrice. Alors, Raphaël, vos créatures préférées
Moi, j'ai plein de créatures préférées. Déjà, je ne vais pas parler de Dracula, Frankenstein, etc. Mais il y en a d'autres un peu différentes. J'aime beaucoup le fantastique de Kafka et la métamorphose. Quand il se transforme en cancre lâche, j'ai toujours trouvé ce roman magnifique et j'ai encore l'image quand il est sur le dos avec ses petites pattes qui battent en l'air. Et ça, c'est tout simple, c'est du fantastique, vraiment tout simple, tout bête, mais c'est tellement simple que ça marche excellemment bien. Donc ça, pour moi, c'est une grande référence fantastique, même si je sais que tout le monde ne classe pas Kafka dans le fantastique en voyant juste une métaphore de transformation du personnage. Mais pour moi, j'ai toujours pris comme un roman très premier degré, très fantastique et j'adore. Et sinon, une grosse référence qui est encore à la marge du fantastique, mais un monstre... qui me passionne beaucoup, c'est La Mouche de Cronenberg avec cet homme, on est dans la science-fiction presque, mais le personnage est un peu fantastique de cet homme qui se transforme petit à petit en mouche. Et c'est ce que j'aime dans le fantastique, c'est de pouvoir faire des êtres hybrides comme ça entre l'homme et l'animal qui sont absolument fascinants. Et tout le cinéma de Cronenberg, Festanu aussi, on a des êtres insectes humains absolument fabuleux et c'est pour ça que j'aime le fantastique avec ses... Pour moi, c'est vraiment ça, même si on a la marge du fantastique, mais ça reste des monstres absolus.
C'est intéressant parce que ça, c'est une créature dont on n'a peut-être pas tellement parlé, enfin je ne sais pas, hein, je n'ai pas assisté évidemment à toutes tes conférences et cafés littéraires, mais l'insecte en fait est une créature fantastique. Vous avez parlé des années 50, mais bon, j'ai pas mal travaillé sur le sujet des fourmis dans la littérature et dans le cinéma. Et en fait, depuis le 19e siècle, le 19e siècle a une véritable fascination finalement pour les insectes, hein, mais une fascination tout à fait scientifique qui petit à petit va glisser vers le fantastique, puisqu'on va avoir par exemple un écrivain français qui en 1901 s'appelle Henri Nère et qui va inventer une histoire où il va y avoir un échange en fait entre un humain et une fourmi, mais c'est une fée qui fait l'échange, donc c'est tout à fait intéressant parce que la fée donc fait intégrer l'humain dans le corps de la fourmi et l'humain vit en fait une vie de fourmi, voit ses sens démultipliés et surtout quand il revient évidemment à l'état humain, il est complètement la vie est complètement déceptive parce qu'évidemment il n'a pas la force de la fourmi, il n'a pas les sens de la fourmi, il n'a pas cette vie collective totalement jouissive qu'on peut avoir dans une fourmilière. Et puis alors bien sûr à partir des années on va dire 40-50 et bien sûr, à partir aussi des problèmes liés à l'exploitation du nucléaire et des armes nucléaires, eh bien, l'insecte devient monstrueux, mutant. Et jusque dans les années 80, eh bien, la créature fantastique, c'est l'insecte qui a muté. Alors, ça peut être du fantastique, ça peut être, évidemment, c'est apparenté à la science-fiction aussi. Mais voilà, ça, c'est une créature, je pense, tout à fait moderne, contemporaine, à laquelle on ne pense pas forcément. Et et qui est né avec Kafka, c'est clair, et la métamorphose, qui est du fantastique un peu absurde d'ailleurs, hein, Kafka. Merci Raphaël pour toutes ces références.
Du coup, c'est amusant, j'y pensais pas, mais l'insecte effectivement sera dans le prochain ouvrage. Parce que donc on suit une petite demoiselle en fait qui dans le monde des rêves, on va dire dans le monde réel, a quelques soucis par rapport à son corps. Et donc l'alter ego onirique, c'est un animal en général. Naturellement, plus celui-ci est esthétique, mieux c'est perçu. Et donc elle, pour symboliser justement ses problèmes par rapport à la perception de son corps, j'ai justement choisi l'insecte. Parce qu'en fait, avec l'insecte, ça peut sembler très étonnant. J'ai également une vidéo, par exemple, où on voyait une mante religieuse qui attaquait en fait un oiseau très petit, une sorte de colibri, un truc comme ça. Et le premier réflexe en fait, de la personne qui assiste à la scène, c'est bien sûr de tuer la mante religieuse. Parce que autant par rapport à un oiseau, par rapport à d'autres espèces, une forme d'anthropomorphisme opère à peu près. Mais l'insecte, en termes d'anatomie, c'est tellement différent en termes de mœurs que du coup, la distanciation est telle que dès qu'on voit un insecte qui agresse une espèce un peu plus proche de nous, on se sent d'emblée en antipathie par rapport à l'insecte. Petite parenthèse. Alors en dédicace un peu plus drôlatique, je vais faire une spéciale dédicace à tous ces monstres tellement ridicules que les auteurs ne les retiennent jamais. Parce qu'en fait, j'ai lu un peu les recueils de Claude Lecouteux et de Régis Boyer en mythologie, qui sont quand même des ouvrages assez érudits. Et donc, je pensais par exemple aux Brigies. Alors imaginez un petit peu, dans les monstres qui ne figurent jamais dans les castings, étrangement, imaginez un requin dont l'aileron dorsal est une voile de navire. Déjà, vous sentez qu'en termes d'imagination, c'était vraiment le monstre qui était au bout de la queue, qui a raté vraiment les meilleurs accessoires, dont le mode opératoire consiste à prendre le navire en fait, qu'il cible entre ses autres nageoires pectorales, un peu comme une sorte d'otarie, qui ne s'assumerait pas complètement, et de l'entraîner par le fond. Et là, vous comprenez qu'en parlant de fond, on le touche pour de bon en matière de conception de créatures. Une dernière que je tente, malgré moi, de réhabiliter, le Tadzelwurm. Oui, non, je n'ai pas éternué. Le Tadzelwurm, c'est en fait une sorte de ver d'un mètre de long dont le principal accessoire effrayant est d'avoir une tête de chat. Bon. On suppose qu'il a paru dans les montagnes, en l'occurrence Helvète, sauf erreur de ma part, et je pense que c'était vraiment, on va dire, une invention de fin de soirée.
Donc, merci Antoine. Alors, pour cette touche originale et puis humoristique, alors vous voyez qu'on a vraiment navigué sur les frontières du fantastique, l'hybridation, le doute. On vous a donné quelques mots-clés. Et donc, je vois qu'on arrive à la fin donc, de cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auteurs sur le fantastique, sur éventuellement les créatures fantastiques, sur ces frontières ? Non, pas de questions ? Ça va ? Donc on a fait le tour du sujet ? Non, pas du tout, on n'a absolument pas fait le tour du sujet. Mais ce n'est pas grave, on vous a donné quelques pistes de lecture. Et donc, pour clore cette table ronde, voilà, vraiment, je vous recommande la lecture de ces différents fantastiques. Parce qu'aujourd'hui, je crois, et ce sera la conclusion de notre table ronde, on a vraiment un fantastique qui est en train d'évoluer, de devenir hybride. Hein. C'est une des marques, en fait, des littératures de l'imaginaire contemporaine, c'est-à-dire une hybridation entre le fantastique, la fantasy, la science-fiction, qui donne vraiment naissance à de nouvelles formes pour, bien sûr, le plus grand plaisir des lecteurs que nous sommes. Donc, je vous remercie de votre présence. Merci à nos trois auteurs pour leurs remarques et leurs définitions et leur rapport à cette table ronde sur le fantastique. Voilà, bonne journée à vous.